troisième rendez-vous aujourd'hui avec le cycle de conférences Les îles laboratoires, proposé par l'IRD, Institut de Recherche et Développement. Et pour l'heure, c'est Olivier Danglès que nous allons retrouver. Il est écologue et nous fera voyager des Galapagos au Paramo sur les traces de Darwin et Humboldt.
Bon, bonjour à tous et merci pour cette invitation pour aujourd'hui. Pour vous parler un petit peu effectivement des Galapagos, j'ai vécu 6 ans en Équateur et donc les Galapagos c'est en Équateur, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Souvent les gens vont à Cusco et après vont aux Galapagos, alors il y a plein de gens qui pensent que c'est au Pérou, mais c'est bien en Équateur. Et le but du jeu un petit peu aujourd'hui c'est de vous présenter peut-être une façon un peu nouvelle de voir les Galapagos. Le thème central de ce cycle de conférences sont les îles. Donc effectivement, les Galapagos, ce sont des îles, mais comment les biologistes voient un petit peu ces îles? Et finalement, comment ce concept d'île peut être transféré à d'autres systèmes qu'on appelle les paramos, dont je vais vous parler un peu plus tard, qui sont aussi finalement ce qu'on appelle nous des îles terrestres. Et donc le voyage auquel je vais vous inviter aujourd'hui, c'est un petit peu de voir depuis les premiers explorateurs jusqu'à la science un petit peu plus moderne de ces dernières années, en quoi le concept d'île est très important et est central en fait pour les écologues et les biologistes pour comprendre notre Terre. Et je vais commencer un petit peu par vous parler un peu de Darwin avant d'arriver aux Galapagos, notamment en citant quelques-uns de ses textes qui vont donner peut-être une image un petit peu différente de celle qu'on a de ce grand naturaliste, grand biologiste. Alors quelque chose qu'il dit par rapport à sa sœur quand il était tout petit, j'ai entendu dire que j'apprenais beaucoup plus lentement que ma jeune sœur, Catherine. Et je crois qu'à divers points de vue, j'étais un méchant garçon. Voilà, donc ça place déjà un petit peu le statut Darwin. À l'époque où j'allais à l'école, mon goût pour l'histoire naturelle et plus spécialement pour les collections était bien développé. J'essayais d'apprendre le nom des plantes, je collectionnais toutes sortes de choses, coquilles, sautins, médailles, minéraux. Donc là, la notion de collection, elle est importante, on va y revenir plus tard. C'est quelque chose qui naît effectivement très jeune chez Darwin. Chez la plupart des naturalistes en fait connus, ça sera la même chose. Mais on reviendra après sur cette notion de collection, on verra que ça lui a joué quelques tours. Alors, un autre personnage important dans la vie de Darwin, notamment dans la jeunesse de Darwin, ce sera son père, parce que Darwin va perdre sa mère assez tôt, à l'âge de 7 ans. Et en fait, son père a toujours été quelqu'un d'assez autoritaire, et bon, la vision qu'avait son père sur Darwin était aussi quelque chose d'important pour lui. Quand je quittais l'école, je n'étais pour mon âge ni en avance ni en retard. Je crois que mes maîtres et mon père me considéraient comme un garçon fort ordinaire, plutôt en dessous du niveau intellectuel moyen. À ma grande mortification, mon père me dit une fois « Vous ne vous souciez que de la chasse, des chiens, de la chasse aux rats, et vous serez une honte pour votre famille et pour vous-même. » En gros, ça commençait mal pour Darwin quand il était tout jeune. Effectivement, il chassait beaucoup. C'était quelqu'un qui prenait beaucoup de plaisir à faire d'autres choses, qui aimait bien voir les plantes, les animaux. Mais sans rien de plus, et son père était assez désespéré de savoir ce qu'il pourrait faire de cet enfant-là. Alors son père, du coup, l'envoie à Édimbourg, où il y a une super fac de médecine. Donc j'ai oublié de vous dire, bon, il est né à peu près... Près du Pays de Galles en Angleterre, donc il passe sa jeunesse dans cette région-là. Et ensuite, son père décide de l'envoyer à Édimbourg pour lui dire « Bon, ben maintenant, tu vas faire quelque chose de ta vie. Va prendre l'école de médecine. » Alors, malheureusement, voilà ce que pense Darwin de cette période de sa vie. « Les leçons de matière médicale à 8 heures du matin l'hiver m'ont laissé de terribles souvenirs. » On a l'impression d'entendre un adolescent de nos jours se lever à 8 heures et puis aller en cours de maths ou de philo. On n'aimait pas trop ça. Ben, c'est la même chose pour Darwin. Le docteur Duncan rendait son cours de l'anatomie humaine aussi ennuyeux que lui-même et le sujet me dégoûtait. Ça a été un des grands malheurs de ma vie que je n'ai pas été astreint à disséquer. J'aurais vite surmonté mon dégoût de cet exercice, eût été une valeur inappréciable pour tout mon travail. Ceci a été un mal irréparable, ainsi que mon inhabilité à dessiner. Alors ça, on va voir aussi que ça a une importance après dans la relation entre Darwin et les Galapagos. Ce fait qu'il n'était pas à redessiner tout ce qu'il pouvait voir, et ça lui aura joué un tour aussi, on va le voir tout à l'heure. Donc la médecine, c'est pas génial, si bien que ce qu'il pense plus ou moins, c'est « je devins convaincu que mon père me laisserait assez de biens pour subsister avec un peu de réconfort, même si je n'aurais pas imaginé que je serais aussi riche, mais ma conviction était suffisante pour ne pas faire d'énormes efforts pour apprendre la médecine. Voilà. » Donc en gros, c'est l'ado qui espère que son père va bientôt mourir pour lui laisser sa fortune, comme ça il pourra faire enfin ce qu'il veut. Alors le père est de plus en plus désolé, il se dit « qu'est-ce que je vais vraiment faire de ce gars-là » et du coup, il se dit « allez, Cambridge ». Cambridge, il le met... Bon, son père avait des entrées un peu partout, parce qu'il va d'échec en échec, mais il arrive à monter quand même dans le rang des universités, donc c'est assez bien pour Darwin. Et à Cambridge, en fait, il lui dit « tu seras curé, enfin, tu seras évêque, tu vas apprendre l'Église, enfin, la théologie, etc. » Et là, on se dit quand même, Darwin va faire quelque chose dans un lieu aussi prestigieux, etc. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait la fête. Donc, Je me lançais dans un monde de sport, comprenant quelques jeunes gens dissipés et d'ordre inférieur. Bon, il dit quand même qu'il est avec une sorte de racaille, on va dire. Nous dînions souvent ensemble le soir, et bien que parfois il se trouvât là des jeunes gens de caractère plus élevé, nous buvions quelquefois trop, nous chantions et nous jouions aux cartes après le repas. Je devrais être honteux de l'emploi de ces jours et de ces soirs écoulés, mais quelques-uns d'entre mes amis d'alors étaient très agréables, et nous étions tous de si joyeuse humeur que je ne puis m'empêcher de me remémorer cette époque avec un vif plaisir. Donc voilà, il faut laisser ses enfants faire la fête, attendre qu'ils mûrissent jusqu'à un certain âge, et pour qu'après ils changent, ils révolutionnent la biologie. Donc c'est ce qu'a fait Darwin, il a pris un peu son temps, il a mûri tout doucement, et il a partagé des bons moments avec ses copains à boire et à jouer aux cartes. Alors, bon, là j'ai présenté un petit peu, on va dire, les aspects hein, les plus... ce qu'on le connaît moins un petit peu Darwin. Bien sûr, pendant toutes ces années, il a quand même rencontré... c'est quand même des lieux de savoir incroyables en Angleterre à cette époque-là. Il a quand même rencontré des scientifiques, plusieurs scientifiques qui l'ont influencé, notamment à Édimbourg, dès Édimbourg. Mais à Cambridge, il rencontre quand même pas mal de gens en dehors de la faculté de théologie. Et notamment, il y a Henslow, qui est son professeur de botanique, et qui va beaucoup l'influencer, qui va avoir un rôle assez déterminant dans sa vie, notamment par rapport au voyage de Galapagos. Et aussi une grande amitié pour ce professeur, notamment parce qu'ils appartenaient au même club de gustation culinaire. Alors, ils faisaient des sortes d'expériences avec tout un club où ils faisaient des nouvelles recettes de cuisine et puis ils essayaient ces recettes et son prof appartenait à ce club. Et donc, il s'est lié d'amitié avec lui. Alors, je passe un petit peu des années. J'arrive donc à la période où Darwin, effectivement, va avoir la chance de pouvoir aller sur ce bateau, le Beagle. En fait, son professeur de botanique a été invité pour faire partie d'une grande expédition autour de l'Amérique du Sud, qui va être menée par le capitaine Fitzroy, grand capitaine à cette époque, qui est jeune, il a 4 ans de plus que Darwin seulement. Et le but du jeu, c'est de partir en voyage dans l'Amérique du Sud notamment, pour bien dessiner les côtes de l'Amérique du Sud, qui à l'époque étaient mal connues, au bord d'un bateau relativement... relativement modeste, on va dire, seulement 3 mâts. C'est un bateau qu'on appellera le cercueil, ce type de bateau, parce qu'il paraît qu'effectivement, quand il y a un peu trop de vent et un peu trop de vagues, il a tendance à couler, donc pas forcément évident. Et il y aura plusieurs personnes à bord de ce bateau, notamment des aides, et une aide, un aide qui est important, Covington. On va voir aussi qu'il a son rôle après dans la théorie de l'évolution finalement, qui va aller avec Darwin, et donc ils vont commencer à partir comme ça en bateau. Alors, là encore, une petite anecdote marrante sur Fitzroy, qui disait que Darwin était convaincu qu'il pouvait juger le caractère d'un homme par ses caractéristiques physiques. Il ne douta qu'avec mon nez, je puisse posséder suffisamment d'énergie et de détermination pour le voyage. Donc, on voit un petit peu comment Darwin a été après son père, qu'il a beaucoup critiqué, Fitzroy, qui le voyait un petit peu de manière hautaine au début. C'est vraiment grâce à quelques amitiés qu'il a réussi à se faufiler un petit peu dans ce dédale d'ondes négatives, on va dire, pour arriver jusqu'au Beagle et pour pouvoir, à partir du moment où il pose le pied un peu sur le bateau, redevenir ou devenir un autre chercheur. Alors, il mettra un peu de temps à mettre le pied sur ce bateau, notamment, le voyage est prévu en septembre 1831. Ils vont partir de Plymouth, donc sur la Manche. Et en fait, le voyage va être décalé de 2 mois. Et Darwin parle de ces 2 mois comme vraiment quelque chose qui a été très dur pour lui. Ces 2 mois passés à Plymouth ont été les plus malheureux que j'ai vécu. J'étais attristé par la pensée de quitter toute ma famille et mes amis pendant une aussi longue période, et le temps me paraissait inexprimablement lugubre. Je souffrais aussi de palpitations et de douleurs au cœur, et j'étais convaincu que j'avais une maladie de cœur. Je ne voulus pas consulter le docteur, craignant d'entendre un verdict qui m'empêcherait de partir. Donc Darwin est vraiment... Il a lu aussi les ouvrages de Humboldt, il a été influencé par d'autres chercheurs, il a vraiment envie de partir, il a vraiment envie de voyager, il sent que c'est la chance de sa vie, entre guillemets, de partir et de se reconstituer. Donc ces 2 mois, il les a vraiment vécus de manière assez terrible. Alors voilà le voyage que va faire Darwin. Donc il va partir de Plymouth, ils vont, comme l'avait prévu le voyage initial, passer tout autour de l'Amérique du Sud. Donc il va faire beaucoup de travaux sur toutes les côtes. Le capitaine Fitzroy aussi va dresser des cartes extrêmement précises de tous ses voyages. Pour lui rendre hommage, il y a même une montagne en Argentine qui porte actuellement le nom de Fitzroy, parce qu'ils sont quand même, à chaque fois qu'ils faisaient des escales, que vous pouvez voir avec les points rouges, ils allaient à l'intérieur des terres, ils faisaient des études à l'intérieur de ces terres, Et donc, ça a été vraiment une expédition qui a été très importante d'un point de vue naturaliste par rapport à Darwin. Mais en fait, ce qu'il voulait faire d'abord, c'était une entreprise de cartographie, une entreprise de géologie. Donc c'est vraiment le but premier de l'expédition. Et Darwin vient un petit peu une sorte comme aide. Il n'est pas connu à l'époque, mais il va, à partir de cette expédition, avoir un impact important sur la biologie en général. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est son arrivée aux Galapagos. Donc il arrive 4 ans après, environ 4 ans après être parti de Plymouth. Donc un long voyage dans toute l'Amérique du Sud. Et ce qui est assez étonnant, donc je vous ai remis la carte des Galapagos, donc effectivement c'est un archipel qui se trouve à un peu plus de 900 km de l'équateur, des côtes de l'équateur. En gros, c'est une heure d'avion depuis Guayaquil, qui est la ville au sud de l'équateur par laquelle on y arrive. Donc, Darwin, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on parle souvent des Galapagos comme étant le lieu à partir duquel, et l'expérience à partir duquel il va pouvoir développer sa théorie de l'évolution. En fait, il faut voir que sur 5 années de voyage naturaliste, où il va quand même aborder pas mal de thèmes liés aux sciences naturelles, à la biologie, il va passer seulement 35 jours aux Galapagos, donc un petit peu plus d'un mois. Et sur ces 35 jours aux Galapagos, il va passer seulement 19 jours à pied sur des îles à observer des animaux et des plantes. Les autres jours, en fait, il va les passer dans son bateau à écrire, à travailler. Mais en gros, l'expérience des Galapagos, ce sont 19 jours sur un voyage qui a finalement duré pendant 5 ans. Alors Darwin, quand il arrive sur cet archipel, ce qui l'interpelle vraiment au début, c'est l'aspect volcanique des îles. Donc effectivement, les Galapagos, ce sont des îles volcaniques, mais à l'époque, la création des îles et des continents, c'était quelque chose qui était encore assez obscur. Et en fait, Humboldt avait commencé un petit peu les travaux quelques décennies plus tôt. Darwin s'est beaucoup occupé à regarder un petit peu la structure de ces roches, l'aspect un petit peu magmatique ou vulcanique de ces roches, pour voir comment, essayer de comprendre comment ces îles étaient sorties, dans ce cas-là, étaient sorties de la Terre. Et ce qu'il regarda aussi beaucoup au début, toujours lié à cet aspect plus géologique de l'expédition, ce sont les mollusques, crustacés et mollusques, comme ici un petit bigorneau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'étude de ces mollusques, notamment sont des organismes qui s'accumulent dès qu'il y a de la mer, permet de savoir qu'effectivement, une partie de la Terre était auparavant sous la mer. Donc nous, ça peut nous paraître évident à l'heure actuelle, mais Darwin a fait beaucoup d'études comme ça de ces roches, et notamment de la sédimentation des mollusques, pour pouvoir prouver, entre guillemets, que ces îles étaient effectivement auparavant sous la mer, et donc qu'il y a eu une résurgence de ces îles pour créer les Galapagos. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, puisque le but du jeu, c'est d'essayer de comprendre un petit peu la genèse, notamment la théorie de l'évolution, à partir des observations de Darwin. Un des animaux quand même qu'on voit bien quand on arrive sur ces îles, notamment à cette époque où il y en avait beaucoup, ce sont les tortues. Donc les tortues des Galapagos, c'est vraiment des géants sur ces îles. Plusieurs centaines d'années, vous savez qu'il y en a George le solitaire qui est mort il y a quelques années, donc qui peut vivre plus d'une centaine d'années. Et en fait, ces tortues, l'intérêt qu'avaient les naturalistes, mais bon, disons tous les voyageurs qui passaient par les Galapagos, c'était pas forcément un intérêt naturaliste, c'était simplement parce que ça pouvait s'attraper facilement. Et aussi, ça pouvait faire un garde-manger dans les bateaux. C'est-à-dire qu'on prend la tortue, on la met dans le bateau, on lui donne à manger quelques salades et tout ça. Puis quand on veut un peu de viande, ben on tue la tortue. Donc ça fait des sortes de denrées alimentaires sur pattes qui pourrissaient pas tant qu'on les donnait à manger. Et donc il y a beaucoup de... Bon, il y a des histoires, après on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais il y a des légendes, entre guillemets, de bateaux qui emmenaient 200, 500, 700 tortues dans les bateaux. Et ensuite, c'était utilisé comme nourriture à bord pour pouvoir... manger dans pendant 5 ans, vous imaginez bien que ça peut poser quelques petits problèmes pour s'alimenter. Donc Darwin, lui, ce qu'il voit quand il arrive sur cette île, c'est une sorte de gros reptile. Alors il est un peu étonné parce qu'il est habitué à avoir plutôt des gros mammifères, enfin que les mammifères soient finalement les plus gros dans les environnements qu'il a visités. Et puis là, il voit surtout des gros reptiles, notamment des grosses tortues, des gros lézards. Il les regarde comme ça, il va décrire sa biologie, il va même pester contre elle parce qu'un soir il veut dormir sur une île et il raconte même qu'il y avait tellement de tortues qu'il ne pouvait même pas mettre le camp tellement il y avait de tortues. Alors est-ce que ça aussi il a un petit peu poussé un petit peu le bouchon ou est-ce que c'était vrai? Et ces tortues-là, il va les garder un petit peu dans un coin de sa tête jusqu'à un jour où Il va discuter avec le sous-gouverneur en fait de ces îles, Lawson, qui lui dit comme ça, enfin là c'est ce que dit Darwin après, mais en gros il lui dit, vous savez moi quand je vois une tortue je peux savoir de quelle île elle vient. Et notamment voici les deux grands types de tortues dont il parlait, avec certaines qui peuvent venir des îles du sud plus d'autres des îles du nord. Et justement Darwin quand il va repenser à tout ça il dit au début je n'avais pas prêté suffisamment attention à cette affirmation du gouverneur, j'en avais en partie mélangé les collections provenant de deux îles. Alors là c'est là où commence un petit peu la chose intéressante et c'est pour ça que je vous ai raconté un peu la genèse de Darwin. C'est que Darwin, il faut bien voir qu'il est arrivé sur ces îles avec la création dans sa tête. C'est-à-dire pour lui c'est Dieu, c'est encore le paradigme qu'il y avait à cette époque. Donc Dieu avait créé les espèces. Éventuellement, il y en avait quelques-uns qui s'aventuraient à dire qu'il n'avait pas créé les espèces en une fois, mais en plusieurs fois, mais en gros, ça n'allait pas plus loin que ça. On restait dans une vision très créationniste de la biologie. Et donc Darwin, quand il est arrivé là, il s'est dit, bon ben, on est sur un tout petit archipel, je ne vais pas prendre de précautions. Moi, quand je vois un individu, une tortue, ben, il n'avait pas noté, notamment, d'où venaient les différentes tortues. Et donc, c'est vraiment quand il a commencé à parler avec les locaux que tout d'un coup, il s'est dit, alors c'est ce qu'il dit, je n'avais jamais imaginé que des îles distantes de 80 à 100 km, dont la plupart sont en vue l'une de l'autre, formées d'exactement les mêmes roches, soumises à des climats similaires, même s'il n'avait peut-être pas vu toutes les variabilités qu'il peut y avoir, avec des terrains d'altitude presque égales, pourraient être peuplés différemment. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important d'arriver à se remettre dans la peau de Darwin, qui arrive quand même... Enfin, encore une fois, pour nous, ça nous semble quasiment évident maintenant, mais lui, il arrive avec vraiment un background, enfin, quelque chose qui lui paraît relativement similaire. Et c'est vraiment à partir d'indices, c'est pour ça qu'on a choisi le mot enquête aussi dans le titre de la présentation, à partir de petits indices comme ça que va naître petit à petit sa théorie, mais c'est vraiment pas Eureka, j'ai trouvé en observant ce qu'il a pu voir. Alors, entre ces deux différentes tortues, qu'est-ce que vous voyez comme différence principale ? Ouais, la carapace, et notamment, vous voyez ce qu'on appelle, donc, il y en a une qu'on appelle en dôme, en forme de dôme, et l'autre qu'on appelle en forme de selle à cheval. Et en fait, les tortues avec des dômes, c'est souvent les tortues, bon là, on a des courants plus froids, donc souvent le froid, ça assèche en fait la quantité de précipitation qu'il peut y avoir sur les îles. Donc ces tortues vivent dans des îles souvent plus sèches, moins productives que ces tortues-là. Donc ça, c'est des tortues qui ont la plupart du temps une quantité de nourriture assez apportée, on va dire, de bec, ouais, quasiment, elles ont une sorte de bec. Tandis que ces tortues-là vont vivre dans des endroits un petit peu plus secs, où justement la végétation est plus rare, et donc elles vont essayer d'accéder notamment aux feuilles des arbres qui sont plus hautes. Et donc c'est comme ça qu'on explique aujourd'hui ces deux types de tortues. Mais bon, Darwin, lui, ça a juste un petit peu éveillé son attention. Et c'est véritablement un peu plus tard, notamment les oiseaux. Alors Darwin était un très mauvais dessinateur comme je vous l'ai dit, lui ce qu'il voulait c'était récolter seulement et il commençait pas à dessiner ou à regarder avec précaution on va dire les différentes espèces qu'il avait, il n'était pas forcément très fort dans un groupe donné, notamment ceux qu'il y avait sur les Galapagos. En fait lui ce qu'il voulait c'est récolter et les envoyer notamment à des naturalistes type Audubon, des dessinateurs pour qu'ils fassent ensuite ses planches. Alors cependant, quand il a commencé à voir notamment cette famille d'oiseaux qu'on appelle les moqueurs, Darwin avait été auparavant en Amérique du Sud, il avait vu des moqueurs aussi, et en voyant ces oiseaux-là, il s'est dit « Tiens, j'en ai vu en Amérique du Sud, mais ce n'étaient pas les mêmes sur le continent, et puis là, j'en vois quelques-uns, et j'ai l'impression qu'ils sont différents. » Enfin, tout ça, c'est... Donc il en avait pris la même chose sur différentes îles, et il les avait gardés, et puis il faut imaginer donc, qu'il est sur la terre, après il revient dans son bateau, il se met dans son bureau, il commence à réfléchir, à armer un petit peu, à voir un petit peu ce qu'il a vu, et en voyant ces différents oiseaux, et bon ça il le verra en fait que plus tard quand il reviendra, même s'il commence un petit peu dans son voyage, mais quand il reviendra en Angleterre, il commence à se dire il y a quelque chose avec ces différents oiseaux, et il lui semble se rappeler que celui-là venait d'une île et d'une autre île. Pourquoi ? Parce que Darwin n'avait pas noté de quelle île il provenait. Alors ça peut paraître incroyable qu'un biologiste aussi fameux aujourd'hui ait fait une erreur, entre guillemets, aussi grande. Bon, on l'a vu avec les tortues, il ne s'imaginait pas. Mais en fait, Darwin avait récolté les oiseaux, et il n'avait pas noté, pourtant il n'avait fait que quatre îles, mais il n'avait pas noté sur quelle île il avait récupéré chaque oiseau. Et quand il doit armer ensuite sa théorie de l'évolution, il est bien embêté, parce qu'il se rappelle, mais il garde quand même cette volonté d'être un scientifique avec des preuves, etc. Et ce qu'il va faire, c'est là où vient en piste Covington, c'est qu'il va demander notamment à ses aides, il avait deux aides de camp, mais Covington c'était le principal, qui eux aussi, bon à l'époque, donc on tirait sur les animaux pour... enfin on les chassait quoi en fait. pour les récupérer. Lui, c'était notamment celui qui utilisait beaucoup la carabine. Et lui en avait gardé aussi, et de manière assez étrange, il avait conservé le nom des îles alors que Darwin ne l'avait pas fait. Et donc, la théorie de l'évolution après, notamment sur cet exemple des moqueurs, il va le faire avec l'aide notamment de Covington, en complétant la collection que lui avait faite avec les collections qu'il avait de ses aides. Alors, effectivement, une fois qu'il a eu toutes ces données, ben, il a pu recréer un petit peu les différences qu'il y avait entre les oiseaux. Donc, il les a fait ensuite identifier par des spécialistes. Il a bien vu que c'était effectivement trois espèces différentes, donc du même genre qui s'appelle Mimus, et que ces espèces venaient de trois îles différentes. Donc là, on est un petit peu au début, on va dire. Donc, ce n'est pas forcément les pinsons, ce n'est même pas du tout les pinsons qui ont donné les premières idées. On va dire que c'est parti des tortues. Ça a continué avec les moqueurs. Et effectivement, ensuite, on arrive aux pinsons, qui sont, eux, véritablement les oiseaux que vous voyez partout quand vous arrivez aux Galapagos. Et ça, c'est un petit peu génial de voir dans un oiseau. C'est un petit peu comme ici, les moineaux. Alors, les moineaux, personne n'y fait trop attention. Si ça avait été les moineaux de Darwin, peut-être qu'on y ferait plus attention à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que quand vous arrivez aux Galapagos, bon, même sans être biologiste, on a entendu parler un petit peu de ces oiseaux. Et donc, on les voit un petit peu partout et on voit facilement les différents types de moineaux, de pinsons qu'on peut trouver. Effectivement, Darwin, c'est ce qu'il va continuer à étudier par la suite. Donc, il avait récolté aussi plein de pinsons des différentes îles où il est allé. Effectivement, il va reconstituer le puzzle. Alors, pas en ayant toutes les espèces. Il lui manquait une espèce, notamment de pinsons. Et il va aussi, cette fois-ci, compléter sa collection avec Covington, mais aussi avec Fitzroy, qui aussi, lui, avait fait des collections sur lesquelles il avait noté sur ses petits cahiers, en fonction du jour où il les avait attrapés, ils ont pu rechercher sur quelle île ils étaient à ce moment-là, pour pouvoir comprendre de quelle île provenait chacun des pinsons. Donc, vous avez différents types de pinsons qui sont adaptés, notamment par rapport à la forme de leur bec. Donc, c'est principalement l'alimentation des pinsons qui a joué, et l'accès à la nourriture qui a joué sur la différenciation de diversification de ces pinsons. Et en fait, ce qu'il faut comprendre et ce qu'on a compris après, c'est qu'à partir d'un ancêtre commun, donc qui était un pinson qui vient du continent, qui a accédé à cet archipel d'îles, on a eu une diversification donc, de plusieurs espèces de pinsons. Vous voyez qu'effectivement, c'est bien la forme du bec avec des pinsons qui sont plus adaptés à manger des graines qui se trouvent au niveau du sol, des pinsons qui sont plus adaptés à manger des petits insectes, donc qui ont carrément des petits becs d'insectivores comme on peut avoir chez le rouge-gorge, par exemple, ou d'autres oiseaux. Et puis là, on a plutôt des pinsons, ben justement, des pinsons français, des gros becs ou des oiseaux de la sorte. Donc, Darwin va utiliser, pour faire son livre sur l'évolution des espèces, cet exemple. Il utilisera en fait beaucoup d'autres exemples, notamment sur la sélection des espèces végétales et animales, notamment domestiques. Donc ça va être juste une toute petite pièce dans le puzzle que Darwin va construire plus de 20 ans après, quand il va écrire son livre sur la théorie de la spéciation. Alors, pour comprendre un petit peu comment ça se passe, hein, il y a différents types de spéciation qui existent. Il y a notamment une qu'on appelle par allopatrie. Donc, patrie, en gros, c'est là où je vis. L'allopatrie, c'est vivre, c'est avoir plusieurs patries qui se différencient. Et donc, effectivement, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que chacune des espèces se retrouvant isolées sur une île différente, elles vont s'adapter notamment aux conditions locales de cette île, ce qui peut être des conditions climatiques, des conditions, dans ce cas-là, c'est surtout de ressources de nourriture. Et petit à petit, elles vont dériver vers de nouvelles espèces et donc créer un cortège d'espèces. Donc ça, c'est l'hypothèse qu'a planté à ce moment-là Darwin. Mais ce qui était le plus important dans tout ça, c'était de pouvoir comprendre les mécanismes qui pouvaient amener à tout ça. Alors, en tant que mécanisme, comme je vous l'ai dit, Darwin, donc quand il rentre, bon là c'est en octobre 1838, il est encore sur son bateau, mais quand il rentre quelques années plus tard, en fait, donc il avait commencé son enquête, notamment au moment où il était au Galapagos et un petit peu avant, il s'inspire aussi de livres, donc Malthus, notamment, qui travaillait à ce moment-là sur la population. Et ce qu'il explique, c'est comme j'étais bien placé pour apprécier la lutte omniprésente pour l'existence du fait de mes nombreuses observations, l'idée me vint tout à coup que dans ces circonstances, les variations favorables auraient tendance à être préservées. Donc le génie de Darwin dans ses observations de terrain et qu'il a passé beaucoup de temps, c'est qu'il a vu des variations entre, non pas les espèces, puisque nous on arrive à voir en gros une variation entre un cacatoès et un pigeon, mais lui, il s'est dit, j'arrive à avoir des variations au sein d'une même espèce, c'est-à-dire au sein de mes différents pigeons, j'arrive à voir qu'il y en a qui sont plus gros, qui sont plus en forme, d'autres qui sont malades, d'autres peut-être qui vont mourir juste après à être nés, des choses comme ça. Donc ça a été le premier véritablement à percevoir cette variabilité des espèces au niveau des populations, et c'est ce qui va mener petit à petit mettre la théorie de l'évolution. Il faut voir qu'il avait une pression énorme à cette époque-là, hein, notamment ses anciens profs qu'il avait eu en théologie, de botanique, etc., étaient contre totalement ses idées, et c'est ce qu'il dit ici. J'étais si anxieux d'éviter les critiques que j'ai décidé de n'en pas écrire la moindre esquisse pour quelque temps. Donc c'est vraiment les différentes pièces du puzzle qui va former pour écrire son livre. C'est véritablement quelque chose qui va prendre du temps, et il va se lancer seulement quand il pense qu'il aura l'épreuve pour démontrer ce qu'il voulait montrer. Là, ce que je vais présenter, c'est en gros les quatre axiomes, on peut dire, les quatre lois sur lesquelles repose cette théorie de l'évolution. C'est de la montrer un petit peu en couleur. Alors ça, c'est des grenouilles qu'on trouve pas aux Galapagos, mais qu'on trouve en Équateur. Ça s'appelle des grenouilles à grande bouche. Enfin, en tout cas, c'est la traduction que je peux faire. Que je peux faire de l'espagnol. Il y a une blague d'ailleurs sur la grenouille à grande bouche. Vous la connaissez, non, sûrement? Ben voilà, ça vient en fait sûrement de cette grenouille. Ça s'appelle bocón en espagnol. On appelle ça en français un ceratophrys, seulement en reprenant la traduction du mot latin. Cerato, c'est les cornes, et ophrys, c'est les sourcils. Et donc en fait, c'est parce qu'il y a des sortes de grosses protubérances au niveau des yeux. Et il y a même certains qui ont des petites cornes. Voilà. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est effectivement deux individus, d'accord ? On pourrait dire que c'est deux espèces, mais en fait, c'est une seule espèce. Donc, c'est ce qu'on appelle un morphe, c'est-à-dire une espèce peut avoir plusieurs couleurs. Bon, ça existe chez les oiseaux, ça existe chez les grenouilles, etc. Là, c'est pour vous montrer de manière flagrante, en fait, ce que nous, on pourrait penser être une même espèce. Là, on peut voir de la variabilité, donc, au sein d'une même espèce. Donc, c'est un des premiers axiomes de Darwin que j'ai mis en bas, des variations héritables, c'est-à-dire des variations qui peuvent se transmettre à ses descendants. Ça, c'est important pour qu'il y ait une évolution d'une génération à l'autre. Il faut aussi que ces variations ne soient pas au hasard, mais qu'elles puissent se transmettre. Donc des variations, comme on voit ici sur la couleur, héritables, existent entre les individus qui composent la population d'une même espèce. Donc on est au sein d'une espèce qu'on appelle ceratophrys, d'accord ? On a des populations de cette espèce, donc il y a une population, là, en l'occurrence, ça vit au sud de l'Équateur, au nord du Pérou. Et au sein de cette population, ben, on trouve effectivement des oranges, des verts, et on va trouver des petits, des grands, etc. Alors du coup, des variations héritables donc, existent entre les individus qui composent la population d'une même espèce. Ça a permis ça à Darwin de comprendre certains mécanismes qu'il y avait eu, notamment pour non seulement de la spéciation entre différentes îles, mais aussi pour comprendre des caractéristiques qu'il y avait sur certaines populations d'espèces aux Galapagos. Aux Galapagos, donc, vous avez ce manchot, comme je vous ai dit tout à l'heure, et puis vous avez un cormoran, qui s'appelle le cormoran apter, donc qui ne vole pas. Et en fait, ça aussi, donc, pour comprendre un petit peu comment un cormoran apter peut se produire, entre guillemets, ou peut évoluer vers cette forme de vie, on a dans une population de cormorans initiales, des populations un cormoran qui vole, comme la plupart des cormorans. Puis petit à petit, dans cette population, il y en a qui ont un peu plus petites ailes que d'autres. Et ceux qui ont des plus petites ailes, ben, en fait, ils ne vont pas mourir moins parce qu'il n'y a pas de prédateurs. Les ailes, ça sert à s'envoler, à fuir, etc. Et par contre, ils ont un peu plus de petites ailes, donc ils vont un peu moins voler. Du coup, ils vont garder de l'énergie pour faire autre chose. Et cette énergie, du coup, ils vont pouvoir la mettre dans autre chose que se déplacer, comme la reproduction. Et du coup, s'ils la mettent dans la reproduction, ben, ce critère qui est le fait d'avoir des plus petites ailes, ça va devenir quelque chose de bénéfique, entre guillemets, en termes de reproduction. Donc, ils vont le transmettre à leurs descendants. Et comme ils ont un meilleur potentiel de reproduction, leurs descendants vont être en meilleure santé, etc. Et petit à petit, ce caractère va être sélectionné pour que, effectivement, à partir d'une population de cormorans à grandes ailes, on ait une sélection de cormorans qui ont des petites ailes. Pourquoi dans ce cas-là ? Parce qu'on a des îles qui sont sans prédateurs. Et que cet aspect morphologique de ne pas avoir d'ailes est quelque chose qui est favorable pour les espèces, ou du moins qui, à l'origine, ne leur est pas défavorable. Alors, deuxième petit axiome de Darwin, qu'on peut observer quand on est au Galapagos, ça c'est une photo qui a été prise au Galapagos, je l'appelle le pélican Astérix, là on dirait qu'il a le casque d'Astérix. Donc il existe une lutte pour la survie et la reproduction dans laquelle les individus sont en compétition pour une ressource limitée. Donc ça, c'est un deuxième moteur un petit peu de la sélection naturelle, c'est qu'effectivement, en plus qu'il y ait de la variabilité, ben les espèces, elles se choquent un petit peu entre elles. C'est-à-dire qu'il y a ici, vous voyez que ici vous avez un nodi, ici vous avez un pélican. Que fait le nodi d'après vous ? Ouais, il attend le poisson. Hein. Donc effectivement, le pélican, ça attrape des... Bon, quand ça attrape un gros poisson, c'est pour lui. Le nodi ne veut pas lui voler. Mais souvent, ça attrape un petit peu de la friture, entre guillemets, comme les pêcheurs pourraient dire. Et donc, s'il y a des petits poissons qui voient un petit peu sur le bord, ben, lui, il attend. Donc, il y a une compétition pour une même ressource ici, qui est le poisson. D'accord ? Et cette compétition fait que... On va rentrer dans une lutte, et cette lutte va favoriser en fait la sélection sur la variabilité de forme qu'on a vue juste avant. Donc c'est un deuxième moteur important pour comprendre la sélection des espèces, c'est la lutte, ce que Darwin a appelé la lutte pour la survie. On va voir juste après que c'est des choses qui ont un petit peu changé à l'heure actuelle, mais ça reste de toute façon toujours valable. Bon, alors, ça existe une fois qu'on est adulte, ça existe aussi quand on est petit, hein, quand on est jeune. Là, c'est deux jeunes lions de mer. Qui, dès la naissance, hein, si vous avez deux garçons comme je peux avoir moi, ça se bastonne tout le temps, hein, en gros. c'est pareil pour les lions de mer. Ça, c'est aussi un petit peu des gènes hérités, on va dire, sur être le plus fort, transmettre ensuite, le plus fort va ensuite pouvoir transmettre ses gènes de plus fort, entre guillemets, et créer petit à, enfin, sélectionner petit à petit des individus qui sont les plus aptes à survivre. Donc la compétition, ici, la ressource, c'est plus du poisson. Ici, la ressource, ça sera la future femelle auquel le mâle qui va sortir de ces deux petits aura affaire. Lors de la lutte pour la survie, tous les individus qui naissent ne survivent pas. Alors ça, c'est aussi quelque chose d'important. Le fait qu'il y ait vraiment... Si, par exemple, j'ai une espèce qui va pondre 30 œufs, ben, sur mes 30 œufs, je vais en avoir certains qui ne vont pas survivre. Et donc, je vais avoir aussi... toujours dans cette même manière, une sélection de certains individus du fait de la mortalité des autres qui vont, eux, pas transférer leurs gènes. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui était important pour Darwin. Et enfin, le dernier axiome de Darwin, c'est donc les individus qui possèdent des variations, ça on l'a vu dès le début, qui les aident à survivre. Donc ces variations doivent être effectivement héritables, donc se transmettre d'une génération à l'autre, mais en plus, elles doivent être favorables, comme je vous ai dit, pour le cormoran à terre, c'est la même... C'est le même exemple. Donc, qui les aident à survivre aux conditions locales de leur environnement sont ceux qui sont le plus susceptibles de se reproduire et de transférer leur trait de vie aux générations futures. Donc, là, c'est un petit peu l'axiome qui englobe les trois autres axiomes dont j'ai parlé. C'est notamment ce qui se passe lors de ce qu'on appelle la sélection sexuelle cette fois-ci. Donc, c'est une partie de la sélection naturelle où on a, ici, c'est une sorte de parade qui est entre des fous de Nazca, qui est une des trois espèces de fous qu'on peut trouver au Galapagos, qui s'échangent des petits brins, des petits bouquets, on va dire, entre le mâle et la femelle. Et donc, ces comportements permettent aussi à la femelle de pouvoir sélectionner un mâle qui aura un potentiel... pour pouvoir survivre à des conditions locales qui sont néfastes et pour pouvoir transférer ses gènes à ses descendants. Alors, j'en ai fini un petit peu avec Darwin. Je voulais vous présenter des choses un petit peu plus modernes, juste en quelques diapositives sur l'état des lieux, sur notre compréhension écologique, en tout cas des îles. Il y a eu un ouvrage très, très important pour nous, les écologues, à la fin des années 60, écrit par Robert MacArthur et Edward Wilson. Edward Wilson, qui est toujours en vie à l'heure actuelle, qui est un biologiste, un écologue très, très reconnu sur le plan mondial, qui ont écrit une théorie des îles. Alors, par rapport à Darwin, qui déjà avait vu finalement qu'entre différentes îles, on avait différentes espèces et qu'on avait donc une sélection, MacArthur et Wilson, ils vont voir d'autres caractéristiques des îles, notamment la taille. En fait, les mécanismes de spéciation et le nombre d'espèces qu'on va pouvoir trouver sur les îles va dépendre non seulement des caractéristiques qu'on va trouver sur chacune des îles, mais également de leur taille et aussi de leur distance par rapport au continent. Bon, là, on est à peu près dans une île qui est relativement, dans un archipel qui est relativement à la même distance des continents, mais quand vous avez des îles qui sont à différentes distances, on peut avoir des implications. Alors, je vais juste, là, j'ai une petite animation pour vous montrer un petit peu comment ça peut se passer. Vous avez ici donc des espèces qui se trouvent sur le continent, qui sont représentées par ces petites flèches. Les espèces peuvent en fait se retrouver sur la mer, même des espèces qui sont pas forcément, qui n'ont pas forcément envie d'aller sur la mer. Je pense à des rats, des araignées, etc., qui peuvent se retrouver sur des radeaux ou des espèces d'oiseaux qui peuvent migrer. Et donc, il y en a certains qui migrent. Alors, il y en a qui se perdent dans la mer ou qui ne vont pas forcément sur l'île. Et puis, il y en a d'autres qui vont donc... accéder à une île et qui vont donc coloniser une île. Donc, je parle notamment des îles quand elles vont se créer. Et donc il y a deux paramètres, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui sont importants par rapport à ça et qui vont conditionner véritablement cette colonisation. Une, c'est la taille de l'île. Vous voyez que plus l'île va être grande, en fait, et plus j'aurai de la chance de mettre des espèces dans cette île, d'accord ? Notamment parce que j'aurai plus d'habitats. Et deuxièmement, c'est la proximité de l'île. Plus l'île est proche, et plus j'aurai des chances de coloniser cette île. Alors justement, il y a deux jours, quand je m'embêtais lors d'une réunion, je regardais Le Monde, et j'ai pensé à la conférence, puisque vous l'avez peut-être vu, c'est passé à la télé aussi, j'ai vu après. Voilà, c'est ça. Donc il y a une île qui a poussé, on va dire, au large du Japon. Alors les Japonais étaient tout contents parce qu'ils ont augmenté leur territoire de je ne me rappelle plus combien de kilomètres carrés. Donc au-delà de ça, ce qui est intéressant là-dedans, c'est effectivement, on peut voir quasiment les Galapagos à l'heure actuelle s'imaginer que c'était comme ça. C'est ça. Alors là, ils ne savent pas bien, c'est ce qu'ils mettent, ils ne savent pas si ça va recouler ou si effectivement elle va perdurer. Mais en tout cas, je suis sûr que j'ai des collègues écologues au Japon qui sont dans les starting blocks pour aller étudier ça et pour aller voir qu'est-ce qui va se passer, notamment en termes de colonisation, parce que c'est des choses qui intéressent beaucoup les écologues qui travaillent sur les îles. Alors quand on regarde effectivement une autre île qui a explosé cette fois-ci à la fin du 19e siècle, l'île Krakatoa qui est au large, en Asie du Sud-Est, et les chercheurs ont regardé un petit peu qu'est-ce qui arrive sur cette île, en premier, en deuxième, etc. Et quels sont les moyens en fait d'accéder à cette île. Et vous avez en fait trois différents moyens qui ont été identifiés. Ce sont les animaux qui sont dispersés directement par la mer, donc qui vont arriver, comme je vous ai dit, sur des radeaux flottants ou qui ont des capacités pour être sur les vagues, des tout petits insectes, des choses comme ça, qui peuvent résister à la salinité de l'eau sur des kilomètres. Des colamboles, par exemple, c'est connu chez les colamboles, pour arriver à des îles. Il y en a qui sont dispersés par le vent, qu'on appelle les anémochores, les autres, ce sont des thalassochores, et d'autres qui sont dispersés, cette fois-ci, par les animaux. Alors, un groupe qui est très fort, en fait, pour se disperser, notamment par le vent. Je vous donne un petit peu des exemples auxquels vous pourriez pas penser, peut-être ne pas penser. On pense tout de suite aux oiseaux, aux chauves-souris, peut-être aux insectes qui volent, etc. Mais il faut bien s'imaginer en fait que dans l'atmosphère, dans l'air, on va dire, il y a ce qu'on appelle une sorte de plancton aérien qui sont constitués par des tout petits insectes ou des araignées dans ce cas-là, qui volent également, qui se laissent porter par les airs. Alors dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle le ballooning chez les araignées, c'est-à-dire je sais pas comment on peut traduire. La montée en ballon, quelque chose comme ça, donc elle laisse un petit peu un bout de sa toile flotter dans l'air, et au bout d'un moment, la force que l'air peut avoir sur ce fil de soie est assez importante pour que l'araignée s'envole. Et donc, il y a d'autres insectes, notamment, par exemple des aphidés, des pucerons, qu'on peut récolter avec des sortes de... Il y a des scientifiques qui ont des pièges à 30 mètres du sol et qui récupèrent comme ça les pucerons. On ne se rend pas compte, mais il y a véritablement toute une colonisation qui peut se faire dans l'air par ces organismes qui peuvent, entre guillemets, voler. Un autre exemple cette fois-ci pour ce qui est dispersé par les animaux. Là, j'ai mis un exemple plutôt d'un mouton. D'après vous, combien ça pourrait transporter de graines, un mouton comme ça ? Juste un mouton. Je mets les moutons parce que souvent, c'est transporté sur les îles. Ce qu'il faut voir, c'est que tous ces processus, avec l'homme, ça a été complètement multiplié. Et donc, les colonisations ont tendance à se faire de plus en plus rapidement. Alors, un bon mouton comme ça, avec une bonne laine, vous verrez combien ? Une graine de plante. Nombre de graines, nombre d'espèces. Un ordre d'idées ? Une centaine ? Le problème, c'est que quand on pose ces questions, tout le monde se dit « Ah ouais, mais en fait, c'est beaucoup et voilà quoi, on n'a jamais... » Alors la réponse, c'est, dans ce cas-là précis, 8511 graines. Mais bon, au-delà des 8500 graines, bon, il y en a qui m'ont dit plusieurs centaines. Ailleurs, je pense qu'il y a certains d'entre vous qui pensaient peut-être à plusieurs milliers, parce que c'est quand même assez dense. Mais ce qui est assez impressionnant surtout, c'est la diversité des espèces qui peuvent être présentes dans des animaux. Bon, là, c'est des moutons, c'est vrai que ça a tendance à accumuler pas mal avec le pelage, mais bon, on peut se rendre compte que chez d'autres organismes, on peut aussi avoir une dispersion qui est relativement facilitée par ces animaux. Donc on arrive, en fait, les scientifiques arrivent à comprendre maintenant quels sont les mécanismes qui ont permis l'arrivée de ces espèces et comment on explique les différents moyens de colonisation des nouveaux environnements. En fait, selon mon île est proche du continent ou si elle est lointaine. Si elle est proche, je vais avoir plus de colonisation, c'est ce qu'on a vu sur le petit schéma tout à l'heure, les espèces y arrivent. Si l'île est lointaine, par contre, je vais avoir plus de mal à y accéder, donc j'aurai des niveaux de colonisation qui sont plus faibles. Je garde toujours la même tendance, mais j'ai un décalage entre les deux. Et autre point qui est important par la suite, c'est cette fois-ci l'extinction. Donc en fait, la quantité d'espèces que je vais trouver sur une île, ça dépend de ce qui arrive et de ce qui meurt sur cette île, ou de ce qui n'arrive pas à se perpétuer. Et dans ce cas-là, l'extinction, elle va augmenter, notamment plus il y a d'espèces, parce que si j'arrive et qu'il y a déjà quelqu'un, ben, peut-être qu'il va me manger, peut-être qu'il va rentrer en compétition avec moi, peut-être qu'on ne va pas s'entendre, je vais devoir partir, entre guillemets, bon, c'est pour simplifier. Et du coup, plus il y a de gens, plus il y a d'espèces sur cette île, ben, plus je vais avoir tendance à m'éteindre. Et de la même manière, cette fois-ci, je fais une distinction en fonction de si l'île est petite ou grande. Ben, si l'île est petite, je vais avoir plus tendance à me bagarrer avec l'autre, donc je vais avoir plus tendance à mourir, je vais avoir des taux plus grands. Et si l'île est grande, ben, il y aura un peu plus de place. Tout ça pour vous dire qu'en fait, c'est au moment où on a l'équilibre entre ces différentes courbes qu'on va pouvoir déterminer véritablement la diversité d'espèces qu'on trouve sur une île. Et donc, si moi j'arrive sur une île, ou si vous, la prochaine fois que vous allez vous balader sur une île, bon, on y va plutôt pour se relaxer, voir les cocotiers et manger et boire de la caille pyrénia, mais si jamais vous dites, tiens, combien il y a d'espèces sur cette île, comment je pourrais savoir? Ben, regardez si l'île est grande, petite, près du continent, et on arrive à se donner une idée de ce qu'on trouve. Donc tout ça, c'est des choses qui sont venues après Darwin, qui étaient... sur lesquels les gens se sont beaucoup intéressés. Alors pour revenir à des choses un peu plus terre-à-terre, ce qui est important aussi à savoir sur les îles, c'est l'aspect d'endémisme. Donc les espèces endémiques, c'est des espèces qu'on trouve que dans certains endroits. En l'occurrence, dans certaines îles, ici, c'est un Nutriepi des Galapagos, une sous-espèce qu'on trouve seulement aux Galapagos. Et notamment aux Galapagos, il n'y a pas beaucoup d'espèces d'oiseaux. Vous voyez, il y a 88 espèces résidentes ou de passage. Mais il y a quand même un quart d'endémisme au niveau des espèces. Et si on prend au niveau des sous-espèces, donc des espèces qui ont commencé véritablement à se spécialiser dans les environnements qu'on trouve aux Galapagos, c'est plus de la moitié des sous-espèces qui sont seulement endémiques des Galapagos. Donc là encore, on voit un petit peu un graphique, on voit ici le taux d'endémisme, donc quel est le pourcentage d'endémisme qu'on trouve sur les îles. Et ici, on voit la distance au continent. Donc les Galapagos, ça se trouve, comme je vous l'ai dit, à peu près à 1000 km du continent. D'accord ? Plus on a des îles qui se trouvent loin du continent, Hawaï, c'est à peu près à 6000 km, et plus on a des espèces qu'on va trouver que sur ces îles. Donc ça aussi, c'est une autre chose que vous pouvez voir un jour si vous allez... je pense notamment aux territoires d'outre-mer français ou d'autres lieux comme ça. En fonction de l'éloignement que vous allez avoir du continent, vous allez avoir des faunes qui sont assez différentes d'une île à l'autre. Alors par contre, quand on est aux Galapagos, on peut voir aussi des oiseaux qu'on voit partout. C'est par exemple le cas de ce héron qu'on trouve, on trouve exactement la même espèce sur le continent. Et donc autre chose qui est important aussi, c'est qu'en fonction de la distance qu'il y a d'une île à l'autre, petit à petit je vais créer des filtres. D'accord ? Alors, par exemple, si là j'ai un cortège d'espèces sur cette île, petit à petit, si je veux savoir quelles sont les espèces que je vais retrouver sur ces différentes îles, si je suis par exemple très attaché aux oiseaux et que je veux dire « Ah, qu'est-ce que je vais trouver comme espèce d'oiseau sur ces îles ?» Eh bien, si je suis proche de ce continent, je vais trouver beaucoup d'espèces qu'il y a sur cette île. Puis petit à petit, je vais en perdre. Et ce qu'on perd en dernier, c'est notamment tout ce qui est héron, pélican. C'est des espèces qui volent très bien et c'est des espèces du coup qui peuvent arriver jusqu'aux îles les plus lointaines. D'accord ? Et donc, on va retrouver cette même faune ici, sur l'île continentale. Et par contre, il y a d'autres espèces qui volent moins bien, et cette fois-ci, elles vont être perdues à chaque fois. Donc, ça crée ce qu'on appelle une disharmonie, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous faites un voyage depuis le continent jusqu'à la côte, vous allez avoir des cortèges d'oiseaux qui sont très différents. Alors, je vais passer à la deuxième partie de la conférence, qui va être beaucoup plus courte. Hein. C'est juste, j'en ai fini avec les Galapagos. Je voulais juste vous parler d'un autre naturaliste qui m'est... qui est génial, quoi, enfin... Humboldt. Donc Humboldt est né une trentaine d'années avant, un peu plus, cinquantaine d'années avant Darwin. Lui, c'est un peu l'inverse. Bon, il est né en Allemagne, hein, il a vécu pas mal de sa jeunesse dans ce château à Tegel. Lui, par contre, il n'a pas eu un père tyrannique, il a eu une mère tyrannique, puisqu'il a perdu, lui, son papa quand il était jeune. Et donc, son papa était prussien, sa mère était française, et sa mère a toujours voulu qu'il ait une bonne position, comme un peu le père de Darwin, et l'a poussé véritablement à faire des études. C'était un enfant très différent de Darwin. En tout cas, dans ses notes, il ne raconte pas un petit peu tout ce que raconte Darwin sur son existence un petit peu, je dirais, décousue dans sa jeunesse. Lui, c'était quelqu'un qui savait vraiment ce qu'il voulait. Il aimait les minéraux, les plantes. Il a fait l'école des mines et il savait ce qu'il voulait. Il savait aussi qu'il voulait partir en voyage. Alors le voyage de Darwin, en fait, de Humboldt, lui, il commence en Espagne, à La Corogne. Alors Quand j'ai commencé à préparer cette conférence, je me suis demandé, mais pourquoi il part de la Corogne? Bon, il était allemand. À la fin, une fois qu'il avait travaillé notamment en Allemagne, et après, il a voulu se rapprocher de Paris, notamment pour être dans le cercle des naturalistes de l'époque, puisque Paris, c'était vraiment la ville des Lumières. Et en fait, ce qu'il a voulu faire, c'est il a essayé de partir dans une expédition avec Bougainville. Donc, il était en contact avec lui, notamment quand il est venu à Paris. Ça a changé ensuite, c'était un autre navigateur qui aurait dû prendre le relais, Nicolas Baudin. Et en même temps, quand il était à Paris, il a rencontré un collègue botaniste qui était aussi médecin, qui aimait Bonpland. Enfin bref, il y a eu toute une sorte de petits cercles d'amis qui sont nés, qu'il a pu avoir à Paris. Mais il n'arrivait pas à partir en fait en voyage. Toutes ces expéditions, en fait, elles ont été annulées. Et ce qu'il a décidé ensuite avec Bonpland, c'est de suivre en fait Napoléon qui à cette époque est parti en Égypte. Donc là, on parle de la fin du XVIIIe siècle. La campagne de Napoléon en Égypte. Et en fait, derrière Napoléon, il y avait tous les scientifiques qui venaient et qui allaient aussi étudier derrière les troupes. Et eux, donc, ils ont suivi cette troupe. Ils sont arrivés jusqu'à Marseille. C'est marrant, justement, comme aujourd'hui. Et à Marseille, ben, les autres sont partis. Ils n'ont pas pu y aller. Et donc, ils se sont retrouvés avec Bonpland. Voilà, donc ils sont allés sur la place Thiers. Ils ont bu un café. Non, ça, c'est moi qui le rajoute. Mais ils ont dit, ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et eux, ils avaient vraiment envie de partir. Et du coup, ils se sont dit, on va aller voir en Espagne. En Espagne, le roi d'Espagne, il est en train de monter des expéditions, etc. Du coup, ils vont en marchant en Espagne, depuis Marseille. Et donc, ils commencent à partir aussi de la même manière donc, en Amérique du Sud. Donc, eux, ils ne vont pas aller en Patagonie, là où allait Humboldt, mais ils vont faire un voyage, notamment ici au Venezuela, où Humboldt va arriver la première fois avec Bonpland, où ils vont aller un petit peu chercher. Donc, il y a le bassin de l'Orinoque, qui est le fleuve qu'on trouve, le deuxième grand fleuve d'Amérique du Sud qu'on trouve ici au Venezuela. Et puis ensuite, il y a tout le bassin amazonien. Et on parlait dans les sphères, dans les hautes sphères, en France notamment, qu'il y avait un canal qui reliait ces deux grands fleuves. Et effectivement, Humboldt est parti à la découverte de ce canal qui existe effectivement entre le fleuve Orinoque et le fleuve de l'Amazone, Rio Negro dans ce cas-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il a fait après. Donc après, il est arrivé dans cette zone ici. Bon, il est reparti un petit peu à Cuba. Et quand il est revenu, il est repassé par... Alors tout ça, ça a été fait plus de manière... Vous voyez qu'il a fait un peu plus de terre par rapport à Darwin, qui a fait un grand voyage parce qu'il avait l'expédition, entre guillemets, payée sur le bateau. Humboldt, ils sont un peu débrouillés. Il trouvait des bateaux pour l'emmener, et puis après, il faisait ça à moitié à terre, à moitié sur le bateau. Il y en a un qui revenait, il le prenait, etc. Donc c'était un peu plus en sac à dos, on va dire, entre guillemets. Et il s'est quand même fait tout un voyage, notamment sur la cordillère des Andes. Et ce dont je voulais parler, c'est qu'à sa mesure, Humboldt a lui aussi vu des îles. Il a vu cette fois-ci des îles qu'on pourrait considérer de terrestres. En l'occurrence, c'est ce qu'on appelle des paramos en Équateur et dans tout le nord des Andes. Ce sont des montagnes donc volcaniques dans ce cas-là qui abritent aussi une faune et une flore relativement spéciales. Et Humboldt, en fait, donc on le voit ici juste à côté du Chimborazo, qui est l'un de ses sommets en Équateur. Il était très intéressé notamment par la géographie des plantes sur ces montagnes. Alors quand on va sur ces montagnes, on est à 4800 mètres d'altitude et on sent vraiment que c'est compliqué d'avancer à chaque pas, on manque d'oxygène, etc. On ressent véritablement depuis un gradient à 3500 mètres jusqu'à 4500 mètres, jusqu'aux neiges éternelles, jusqu'au glacier 4800 mètres, la force, je dirais, des facteurs environnementaux comme le manque d'oxygène, le froid, etc., qui vont limiter un petit peu la vie. Et c'est justement ce que Humboldt, à son époque, ça encore, c'était pas connu, a dessiné dans son livre sur la distribution des plantes. Il a, vous voyez, chaque petit mot ici, c'est le nom d'une plante. Et donc, il a montré, en fait, comment, dans ces paramos, il y avait une distribution des communautés de plantes qui allaient différer entre les parties basses et les parties hautes. Et ça a été le premier véritablement à faire une grande géographie des plantes et à comprendre, avant Darwin, alors il n'avait pas tout l'aspect évolution avec lui, mais il a commencé à comprendre quand même les associations qu'il y avait entre le milieu physique et le milieu biologique, qui était une idée qui était complètement nouvelle à l'époque. Alors, à l'heure actuelle, on sait en fait que se balader depuis la forêt amazonienne au pied des Andes en allant jusqu'au sommet du Chimborazo, ça équivaut en fait à faire une balade depuis l'équateur jusqu'au pôle Nord. C'est à peu près les mêmes écosystèmes qu'on va retrouver. Au début, on va même retrouver des forêts, donc des forêts plutôt de feuillus. Après, on va donc ce qu'on peut trouver, par exemple, des forêts de chênes ou même dans les forêts tropicales. Après, on va trouver des forêts de conifères, une fois qu'on monte un petit peu à une altitude 2500-3000 mètres en Équateur. Après, on va trouver une sorte de toundra où il n'y aura quasiment plus d'arbres. Et puis après, on va trouver de la neige, comme on peut trouver au niveau du pôle Nord. Donc, Humboldt a vraiment montré ça, comment, en se baladant sur une montagne, notamment en l'occurrence un paramo, on arrivait finalement à recréer la diversité d'espèces qu'on peut trouver si on se balade depuis les tropiques jusqu'au pôle au niveau de la planète. Alors voilà les paysages qu'on peut trouver en Équateur, par exemple, de ces paramos. Donc ici, c'est le volcan du Cotopaxi. Là, je suis sur un autre paramo qui s'appelle le volcan de l'Antiana. Et vous voyez, donc, on est dans cette strate, justement, dont je vous parle. On est au-dessus de la limite des arbres et on se retrouve dans une sorte de grande pelouse, entre guillemets, qui est très humide parce qu'au niveau de l'Équateur, il pleut beaucoup et qui a l'avantage, donc, comme je vous ai dit, bon, ce sont des îles volcaniques et finalement, ça ressemble un petit peu aux Galapagos. On est un petit, bon, d'ailleurs, on est dans le même système un petit peu sismique par rapport aux Galapagos. Et quand on regarde en fait une carte, ben voilà, ici, vous avez la carte des volcans. Bon, ça, c'est une carte que j'ai shippée à mes collègues géophysiciens de l'IRD. Les couleurs, en fait, ça représente les volcans soit actifs, soit mi-actifs, soit éteints. Donc, ici en Équateur. Mais ce que je trouvais bien dans cette carte, c'est qu'on voit quasiment des îles. Vous voyez, donc on est au niveau de montagne, mais ces paramos, en fait, constituent, puisque comme Humboldt l'a montré à partir d'une certaine altitude, on a d'autres types de systèmes, constituent en fait des îles terrestres. Et justement, les écologues, d'un point de vue méthodologique, d'un point de vue théorique, d'un point de vue mécanistique, ce qu'on a pu comprendre grâce à Darwin, grâce à d'autres personnes comme Wilson, notamment MacArthur et Wilson, ben c'est que les mécanismes qu'on peut observer, notamment de connexion entre les continents, les îles, ou de spéciation après au sein des îles, ben c'est des mécanismes qu'on peut tout à fait utiliser pour comprendre notamment la diversité, la répartition des espèces dans des montagnes, mais ça peut être aussi vrai entre deux lacs qui par exemple sont différents, ou ça peut être aussi vrai quand on rase une forêt par exemple, quand il reste juste un fragment de forêt. On parle également d'îlots forestiers, c'est d'ailleurs quelque chose qui vient un peu dans le langage français, d'îlots forestiers, ben, ces îlots c'est véritablement en termes de fonctionnement des choses qui se rapprochent des îles océaniques et dont la diversité peut être comprise de la même manière. Alors, dans ces îles, on trouve des espèces qu'on ne trouve que là. Donc, on parlait d'endémisme pour les Galapagos. On trouve ici aussi notamment certaines grenouilles d'un genre qu'on appelle Atelopus, qui sont des grenouilles qui vivent que seulement dans les paramos, des grenouilles qui sont en danger à l'heure actuelle, puisqu'on a les paramos sont des endroits, des zones véritablement élevées. Donc, on a notamment les radiations qui sont très importantes à ces niveaux-là. Et donc, avec notamment le changement climatique, l'augmentation de la température, plus d'humidité et le fait qu'il y ait plus de maladies, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails sur la disparition de ces grenouilles, mais qui les impacte, on a des conditions particulières pour la présence de ces espèces, mais aussi qui menacent ces espèces. Une autre plante qu'on peut trouver dans des paramos, notamment colombiens et au nord de l'Équateur, qui s'appelle le Speletia, ce sont des plantes en fait, qui sont complètement adaptées à la vie en altitude. Elles ont notamment, on s'appelle les plantes oreilles de lapin. Quand vous les touchez, on a vraiment l'impression de toucher les oreilles de lapin. Je ne sais pas si vous avez déjà touché les oreilles de lapin. Mais ça ressemble à ça, c'est tout douteux. Et en fait, c'est une feuille qui est complètement adaptée à la survie en altitude. Et vous voyez notamment que les feuilles, en fait, quand elles meurent, au lieu qu'elles les perdent, ben, ces feuilles vont servir à créer une sorte de protection autour de la tige de la plante et qui va servir véritablement de protection notamment thermique contre le gel et qui vont permettre à ces plantes de survivre dans ces paramos. Donc de la même manière que les îles, on trouve des espèces endémiques, des espèces adaptées, comme on a vu avec le cormoran aptère qui avait perdu entre guillemets ses ailes, ben, on trouve ici aussi des mécanismes de spéciation qui ont amené les formes de vie à s'adapter complètement au milieu qu'avait décrit Humboldt. Voilà, je vais finir maintenant avec une autre île, la dernière île dont je ne vous avais pas parlé au début. Vous voyez qu'on a vu des îles dans la mer, des îles dans les paramos. Et bien dans les mêmes paramos, on peut trouver d'autres îles aussi, qui sont en fait des coussins. Alors ce sont des plantes, ici ça s'appelle une azorella, c'est le genre azorella. C'est des plantes qu'on trouve beaucoup en Amérique du Sud, et vous voyez en fait ça forme vraiment comme une île. Et d'ailleurs, on peut le voir dans différents coins ici. Là, vous êtes en Bolivie, juste en face du volcan Sarama. On trouve ces sortes de coussins. Et ces coussins, en fait, participent véritablement. Vous voyez qu'autour de ça, il y a une matrice comme si on était dans un océan qui n'est pas vraiment favorable pour les autres. Et par contre, quand on arrive au niveau de ce coussin, ben, il y a plus de plantes qui peuvent pousser. Et vous voyez ici, notamment sur les coussins, on a souvent pas mal de plantes qui les colonisent. Ici, vous avez une espèce de petite gentiane, le genre gentianella, qui effectivement ne pousse ou pousse de préférence à l'intérieur de ce coussin. Pourquoi ? Parce que ce coussin crée de la matière organique, ce coussin est plus chaud, et ce coussin se comporte à son échelle comme une île à l'intérieur d'une autre île. Et de nouveau, les écologues peuvent étudier ces plantes comme des sortes d'écosystèmes entiers, comme des îles marines ou comme des paramos, pour essayer de comprendre pourquoi c'est important d'avoir ce type de plantes dans les paramos. Alors vous avez ici un autre exemple, où là c'est un polylépis, un arbre typique aussi d'Amérique du Sud, et vous voyez comment il a choisi de pousser justement dans ce groupe d'Azorella. Donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant pour nous.
C'était Olivier Danglès, écologue et directeur de recherche à l'IRD. Le prochain rendez-vous du cycle Les Îles Laboratoires sera avec le géographe Emmanuel Grégoire autour des savoirs et de la mondialisation à l'île Maurice. C'est samedi 18 janvier à 17h30 à l'Alcazar. Retrouvez toutes les conférences du cycle proposées par l'IRD sur radiogrenouille.com.